Radio Kapi.
Oh, Kapi.
Présenté par Belinda Bosuma, voici le sommaire. Au moins 30 personnes tuées et plus de 100 maisons cambriolées en l'espace de 2 semaines à Goma. C'est ce qui ressort du premier rapport conjoint publié récemment par les conseils communaux de la jeunesse des communes de Goma et Karisimbi, des présumés éléments du M23, des évadés de la prison Munzenze et certains bandits assimilés au Wazalendo sont indexés. Démolition de certaines constructions à Kinshasa. Le député national Gratien Irachan adresse une question d'actualité à la ministre des Affaires foncières. Entre autres réponses, c'est pour préserver la sécurité collective de la population, affirme Acacia Bandoubola. Et puis, l'invité de ce midi, Eric Mukandila Malou, secrétaire permanent de la Commission nationale pour les réfugiés CNR. Il nous parle de l'accord entre la Commission nationale pour les réfugiés et l'Office français pour les réfugiés et la patride. Cet accord vient appuyer le renforcement des capacités des membres de la CNR, dit-il. Madame, Messieurs, bonjour. Le niveau de criminalité demeure inquiétant et alarmant dans la ville de Goma. Au moins 30 personnes ont été tuées au cours de ces 2 dernières semaines, soit du 25 avril au 10 mai, dans des actes criminels. Le plus récent est l'assassinat la nuit de jeudi à ce vendredi d'un chef d'avenue et d'un chef des 10 maisons dans le quartier Mugunga, à l'ouest de la ville de Goma. Ceci ressort d'un rapport publié récemment par les conseils communaux de la jeunesse des communes de Goma et de Karisimbi. Des présumés M23, des évadés de la prison de Munzenze et certains Wazalendo qui ne désarment pas sont accusés. Le point avec vous, Jacques-Yves Moulima.
Les 2 cadres de base, Safari et Mubano, de l'avenue Tiavou, dans les quartiers Mugunga, ont été tués vers 20h locales alors qu'ils voulaient secourir leurs administrés menacés. Les bandits armés leur ont tiré dessus à bout portant avant de s'éclipser, abandonnant 2 armes à feu sur les lieux. Ces 2 victimes viennent de rallonger la liste du nombre de personnes tuées à Goma. Dans ce tout premier rapport conjoint intitulé Goma Hebdo, les 2 structures de la jeunesse parlent de 15 personnes tuées par arme à feu, 9 corps découverts sans vie, 3 autres cas de justice populaire et 2 autres de suicides ainsi que de blessés rien que ces 2 dernières semaines. La commune de Karisimbi a enregistré plus de cas de ce tuerie et continue à enregistrer d'autres. C'est précisément dans les quartiers Mugunga, Ndosho, Kasika, Mabanga Sud et Bujovu. Des éléments présumés du M23, des prisonniers évadés de Munzenze et certains bandits assimilés au Wazalendo sont indexés. Signalons que durant cette même période, plus de 100 maisons ont été aussi cambriolées par des porteurs d'armes en tenue militaire, toujours dans ces quartiers et 3 autres de la commune de Goma.
Parlons de la démolition des immeubles à Kitambo Magasin par le gouvernement provincial de Kinshasa. Le député national Gratien Irachan adresse une question d'actualité à la ministre des Affaires foncières. Au cours de la plénière d'hier jeudi, l'élu de Bounia en Ituri exige des explications de la ministre Acacia Bandoubola face à ces opérations de démolition sans avertir au préalable les populations victimes. Dans ses éléments de réponse, la ministre des Affaires foncières explique que l'action est menée par le gouvernement provincial pour renforcer l'autorité de l'État dans le secteur foncier. Michel Kifindangoy nous en dit plus.
Par cette question d'actualité, l'élu de Bounia recherche les véritables causes qui motivent ces démolitions, rendant plusieurs familles sans domicile. Gratien Irachan.
Selon les informations en notre possession, les occupants des immeubles érigés dans ces secteurs n'ont pas été avertis des actions qui allaient suivre. Pourriez-vous nous dire exactement ce qui se passe dans cette commune? Pourquoi des grandes machines détruisent ces maisons avec comme conséquence des familles entières dans les rues de Kinshasa sous les étoiles et ayant perdu tous les biens?
Dans sa réponse, la ministre des Affaires foncières estime que cette décision vise notamment la préservation de la sécurité collective de la population. Acacia Bandubola.
Les opérations de démolition des maisons d'habitation dans la commune de Kintambo ont été lancées par les gouvernorats de la ville de Kinshasa. Il s'agit des maisons se trouvant le long de la rivière Mampenza et celles situées le long de la ligne ferroviaire. Il faut également relever que ces constructions se trouvent sur les terres dites domaines publics de l'État.
La question d'actualité n'appelant pas de débat, c'est par la réponse de la gestionnaire du secteur foncier de la RDC que la plénière a clôturé l'examen de cette problématique.
Le nouveau gouverneur du Kwilu, Philippe Akamituna Ndolo, prend officiellement ses fonctions. C'est à l'issue d'une cérémonie de remise et reprise hier jeudi avec le gouverneur intérimaire sortant, Félicien Kiwai. Cette cérémonie conduite par l'inspecteur principal provincial de la territoriale a eu lieu en présence du président de l'Assemblée provinciale du Kwilu, Claude Kumpel, des membres du gouvernement sortant, des autorités sécuritaires et plusieurs autres personnalités. À l'occasion, Philippe Akamituna Tuna promet de travailler pour sortir la province de la pauvreté. Irène Mboma nous en dit plus.
C'est à l'issue de cette cérémonie de remise et reprise organisée jeudi au gouvernorat de la province du Kwilu à Bandundu que Félicien Kiwai a cédé officiellement le bâton de commandement à Philippe Akamituna. Devant la presse, le gouverneur intérimaire sortant s'est exprimé en ces mots.
Nous avons le sentiment de joie, nous avons fait notre part. Nous souhaitons la bonne chance au gouverneur nouvellement élu. Nous serons ensemble avec lui d'une manière ou d'une autre.
Dans ses premiers mots officiels, les nouveaux locataires du gouvernorat du Kwilu promet de travailler dur pour redonner l'espoir à la population kwiloise et à tout faire pour booster le développement de cette province dite pauvre. Philippe Akamituna.
Je crois que mon objectif général, c'est de sortir la province du Kwilu de la catégorie des provinces pauvres de la RDC. C'est de donner l'espoir dans la façon de travailler, mais nous demandons à la population de nous accompagner. C'est comme j'ai dit dans la salle que même s'il faut tailler les chemins dans les rocs, nous les taillerons pour vie de faire avancer cette province.
Rappelons que le professeur Espoir Massaman, qui est le nouveau vice-gouverneur de la province du Kwilu, Irène Mboma, Bandunduville, Radio Okapi.
Direction le Sud Kivu, le territoire de Fizi est honoré ce vendredi par la présence d'une délégation composée des membres du gouvernement central et de la province. Cette délégation vient compatir avec la population frappée par la catastrophe naturelle et en fait une centaine de morts, plusieurs dizaines de disparus et des dégâts matériels innombrables. C'était dans la nuit du 9 au 10 mai dernier. L'administrateur du territoire, Sami Kalonji, dit espérer que cette délégation va apporter quelques pistes de solutions aux maux dont souffre son entité. On l'écoute.
Cette délégation va apporter un message de compassion du gouvernement central pour soulager tant soit peu cette population dominée et qui manque presque tout, les vivres, les enfants, les femmes enceintes, les blessés qui sont éparpillés à travers les différentes formations sanitaires du littoral du lac Tanganyika. Nous attendons que cette délégation puisse arriver pour s'en rendre compte de plusieurs besoins qu'attend non seulement le village Kasaba, mais aussi les territoires de Fizi. La présence de cette délégation doit apporter un plus au territoire de Fizi dans la mesure où elle vient se rendre compte des difficultés auxquelles nous faisons face en tant qu'autorité territoriale. Cette délégation va également s'en rendre compte des plaidoyers que nous avons à maintes fois menés auprès du gouvernement central pour pouvoir nous réhabiliter la arène numéro 5.
Rendons-nous dans la province du Maniema. Le gouverneur s'est dit déterminé avant la fin de son mandat de couvrir toutes les écoles du Maniema avec des tôles. Hier, 11 000 tôles ont été remis aux écoles du secteur public et privé de 19 sous-divisions des deux provinces éducationnelles du Maniema. Ces tôles sont acquises dans le cadre des frais de solidarité scolaire du premier trimestre et la moitié du deuxième trimestre de cette année. Moussa Kabouankoubi dit pérenniser la vision du chef de l'État sur la gratuité de l'enseignement de base. Florence Kizalunga, reportage.
La remise de ces 11 000 tôles fait réagir les parents qui payent ces frais depuis 2014. Ramazan Irachidi, président de l'association des parents.
Vraiment, les parents sont contents parce que ces frais ont commencé à être versés d'abord par les parents depuis 2014. Depuis 2014, vous voyez, aujourd'hui, pour la première fois, nous venons de voir ces gestes et nous espérons qu'il va suivre ces rythmes. Avec ces gestes, ça donne vraiment du courage. Ça pousse aux parents de payer.
Pour les bénéficiaires, cette dotation est une solution aux besoins réels des écoles. Henri Maïndou est de la sous-division de Pounia.
Oui, nécessairement, un besoin très capital. Étant donné qu'on a des classes en paille, en stick, non couvertes par des tôles, et qu'on a l'occasion d'avoir un appui de 1000 tôles, ça vaut la peine. Je suis très content d'avoir cet appui.
Le gouverneur met en garde le bénéficiaire sur la gestion de ces tôles. Moussa Kabankoubi rappelle que les soucis, c'est l'amélioration de l'offre de l'éducation.
Notre objectif dans le secteur de l'éducation, du côté de l'offre de l'éducation, c'est d'avoir, d'ici la fin de notre mandat, d'avoir toutes les écoles de la province du Maniema en tôle. Nous ne voudrions plus avoir, d'ici la fin de notre mandat, des écoles en paille ou en chaume.
Kindu, Florence Kizalunga, Radio Kapi.
Du côté de la Tchopo, le gouverneur de province lance les activités de reconstruction de l'entrepôt de la centrale de distribution des médicaments essentiels de Kisangani. La cérémonie de pose de la première pierre s'est déroulée hier dans l'enceinte de cette association sans but lucratif de droit privé congolais. La durée prévue pour la réalisation des travaux est de 10 mois, un bâtiment d'au moins un niveau. Jacques Moukonkole nous en dit plus.
La construction de cet immeuble est financée notamment par le gouvernement central et la Kamekis elle-même à hauteur de plus de 386 000 dollars américains. L'incendie de son entrepôt d'une capacité de 1624 mètres cubes en août dernier avait entraîné des conséquences certaines, comme l'explique la sœur Jeanne Marthe Amissi, présidente du conseil d'administration par intérim.
Des graves conséquences sur la continuité des soins des malades sous traitement antituberculé et antiroviral, mais également sur les risques éventuels de la survenue des épidémies par défaut de traitement correct.
D'autres financements, dont celui du gouverneur des provinces, sont attendus dans un meilleur délai. Au regard de l'importance de la Kamekis et des sacrifices consentis pour sa reconstruction, le gouverneur des provinces, Paulin Ndongolia, enjoint l'entreprise de construction et la Kamekis à veiller respectivement sur la qualité et la sécurité de cet ouvrage.
Aux dirigeants des Kamekis, je vous demande de veiller à surtout intégrer des dispositifs efficaces, fonctionnels et permanents de lutte contre l'incendie.
Rappelons que la mission de la Kamekis est de rendre disponibles les médicaments et autres produits de santé de qualité aux formations médicales aussi bien publiques, confessionnelles que privées, au meilleur prix. Jacques Moukonkole, Kisangani, Radio Kapi.
Autre nouvelle, au Nord Kivu, les prix de certaines denrées alimentaires de première nécessité sont en hausse dans la ville de Beni. C'est par exemple le sac de riz qui a augmenté de 3 dollars ou encore celui d'un kilo d'oignons qui a presque doublé. Des hausses qui s'expliquent par les travaux de construction du pont Semuliki sur la route Beni-Kassindi et l'insécurité dans les zones maraîchères selon les commerçants. Guylaine Kassassia s'est rendue au marché de Mayangos. Voici son reportage.
Nous sommes au marché secondaire de Mayankosé, réservé principalement aux denrées alimentaires. Les prix d'un kilogramme d'oignons ou d'une botte de poireaux ont presque triplé en quelques jours. Selon certains marchands, c'est la conséquence de la sécurité dans plusieurs villages d'où proviennent ce produit. Du coup, un kilogramme d'oignons qui coûtait 3000 francs congolais il y a un mois se vend actuellement à 7000 francs congolais. Cette femme rencontrée au marché confie son désarroi.
Mon constat est qu'il y a rareté des poireaux sur les marchés, raison pour laquelle il y a hausse du prix. Les quelques poireaux que je viens d'acheter ne me serviront à rien. Il y a quelques jours, nous les achetions à 200 francs, mais voilà qu'aujourd'hui, ils reviennent à 1000 francs congolais.
Le prix des arachides a également augmenté. De 1500 francs, la mesurette est passée à 2000 francs. Un sac de riz de 25 kg qui coûtait 23 dollars se vend aujourd'hui à 25 dollars. Commerçants et acheteurs demandent aux autorités de rétablir la paix dans la région. Beni, Guylaine Kassassia, Radio Kapi.
En Ituri, plusieurs jeunes utilisent abusivement le tramadol, un antidouleur considéré comme une drogue. La société civile Force Vive du territoire de Mambasa alerte sur le danger de consommation de ce médicament en vente libre dans des officines pharmaceutiques. Une pratique qui expose ces jeunes à la dépendance, pouvant entraîner la mort, déplore le docteur Yunga Abedi, médecin-chef de la zone de santé de Mambasa. Sadiki Aboubakar nous en parle.
La consommation abusive du tramadol est devenue une pratique courante à Mambasa depuis quelques mois. De nombreux jeunes l'utilisent comme repas en ajoutant quelques comprimés dans une bouteille de jus, rapporte la société civile. Mungeni Murani, son président, craint pour l'avenir de toute une génération.
Ça prend les jeunes de 15 à 35 ans, aussi les élèves et plus particulièrement les taxes humaines.
Quels sont les effets et les conséquences de la prise abusive du tramadol? Le médecin chef de la zone de santé de Mambasa, le docteur Yunga Abedi, explique.
Quand on consomme à long terme, il y a la dépendance. Et il y a à côté de cela des effets indésirables. Et parmi ces effets les plus spectaculaires, ce sont les convulsions. C'est la dépression du centre respiratoire et le pire des cas, la mort. Nous avons convenu à la réunion de l'équipe cadre de la zone de santé que le tramadol ne doit être vendu que sur ordonnance médicale.
Une rencontre est prévue cette semaine entre la zone de santé de Mambasa et l'association des tenanciers des officines pharmaceutiques sous la facilitation de l'administrateur du territoire, afin de trouver des réponses à cette question qui risque d'hypothéquer l'avenir de toute une génération. Bounia, Sadiki, Aboubakar, Radio Kapi.
Actualité internationale.
Au Tchad, l'ancien Premier ministre Succès Masra a été interpellé ce vendredi à l'aube à son domicile, ont annoncé ses proches. Ceux-ci affirment qu'aucun motif n'a été communiqué lors de son arrestation. Le vice-président sud-africain Paul Mashatile exhorte les fermiers blancs sud-africains à rester en Afrique du Sud. C'est lors d'une visite au salon de l'Organisation nationale des producteurs de maïs, considéré comme le plus grand salon agricole d'Afrique australe, que le vice-président s'est adressé à cette couche de la population sud-africaine. L'appel a lancé alors qu'une cinquantaine d'Afrikaners sont arrivés aux États-Unis avec le statut de réfugiés récemment.
L'invité.
Comme annoncé, nous recevons Eric Mukandila Malou, secrétaire permanent de la Commission nationale pour les réfugiés, CNR. Il nous parle de la signature d'un accord entre la Commission nationale des réfugiés et l'Office français pour les réfugiés et l'apatride. Cet accord qui vient apporter son appui sur le renforcement des capacités des membres du CNR. Il s'entretient avec Étienne Lissoumbou.
Monsieur le secrétaire permanent, bonjour.
Bonjour.
Vous venez de signer un accord avec l'OFRA. Vous pouvez nous dire c'est quoi l'objectif de cet accord?
Oui, avec l'OFRA, qui est l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, nous avions engagé dans de pourparlers, ça fait déjà plus d'une année, et aujourd'hui c'était l'aboutissement de ces discussions qui nous ont amenés à la signature d'un accord de partenariat qui nous permettra d'échanger sur les mesures de protection entre nos deux institutions et échanger sur les expériences professionnelles de ces deux institutions.
Alors, comment est-ce que s'est fait l'identification des réfugiés?
L'identification des réfugiés est un long processus qui commence à partir de l'entrée au niveau de la frontière avec des services de la DGM, de services de renseignement et de la police nationale, et une fois identifiés, on fait de notre mieux pour s'assurer que les réfugiés sont réellement des demandeurs d'asile et que ce sont des civils. Le caractère civil est primordial pour nous, parce qu'il faut séparer ceux qui ont pris des armes par rapport aux civils qui entrent sur notre territoire. Alors, une fois qu'on a fait cette première étape, on passe à l'enregistrement, qui consiste à les enregistrer pour pouvoir aller maintenant le mettre dans la base de données qui est un processus biométrique. On prend les empreintes digitales et puis on prend l'iris pour que ces gens qui viennent sur notre territoire soient identifiés dans notre base de données.
Avec la situation sécuritaire actuelle, quelles sont les mesures qui sont prises?
La situation actuelle nous met dans une situation inédite. La situation est un peu complexe pour l'instant, mais nous continuons à œuvrer tel que nous l'avons toujours fait dans le passé, au niveau de frontières qui sont encore contrôlées par le gouvernement congolais. Nous procédons de la même manière, donc nous n'avons pas assez de difficultés pour identifier les nouveaux demandeurs d'asile et les réfugiés qui sont sur notre territoire. Du point de vue sécuritaire, il n'y a aucun problème.
Et comment est organisé les logements?
Les logements, c'est un défi énorme parce que la majorité des demandeurs d'asile ou des réfugiés qui entrent sur notre territoire sont d'abord accueillis par les familles d'accueil. Et le reste, nous soumettons les besoins au niveau des partenaires qui nous aident à ériger des abris temporaire, parce qu'un réfugié n'est pas supposé rester réfugié pour le reste de sa vie. Et donc, ce sont des abris que nous construisons avec nos partenaires, en particulier ACER, pour accueillir ces gens, tant soit mieux dans la dignité et la sécurité.
Alors, pour terminer, les contrats que vous venez de signer aujourd'hui avec OFRA, est-ce atteint à long terme ou à court terme?
C'est un contrat que je souhaite à long terme, parce que si vous avez entendu ce que la directrice de cabinet, le directeur général de l'OFRA a dit, ils ont une longue expérience. L'OFRA existe depuis 1952 et nous avons été créés il y a une vingtaine d'années. Et donc, je pense et je souhaite que ce soit un partenariat de longue portée et que nos échanges soient vraiment fructueux en termes de connaissances et des stages au niveau de l'OFRA et pourquoi pas eux aussi venir apprendre comment nous gérons les réfugiés, les demandeurs d'asile sur notre territoire national.
Merci beaucoup, monsieur le secrétaire permanent.
C'est moi qui vous remercie.
Éric Mukandila Malou, secrétaire permanent de la Commission nationale pour les réfugiés CNR, répondait aux questions d'Étienne Lissoumbou. Par ici prend fin ce journal, coordonné par Jacques-Yves Molima Aouta, supervision d'Alain Rong Mouchinj, à la mise en onde d'Eps Vita. Merci d'avoir été des nôtres.